Chapitre 27. Tandis qu'il courait en zigzag afin d'éviter les débris qui volaient en tous sens, Richard et Callan se couvrirent les oreilles pour les protéger d'un vacarme de fin du monde. À la lumière stroboscopique des éclairs, le sourcier, jetant un coup d'œil derrière lui, vit que le sol s'affaissait au centre du jardin. Les énormes blocs de granit cachés sous la pelouse se désolidarisèrent et tombèrent dans le vide. Comme dans un sablier géant, l'herbe, la terre et le sable suivirent le même chemin. Quand la pluie de débris cessa enfin, Richard leva les yeux et vit qu'il y avait une grande brèche dans le toit de verre. Par bonheur, la structure avait tenu sur les côtés, limitant les dégâts. Regardant mieux le cadre métallique qui soutenait les vitres, Richard constata qu'il était conçu pour résister à pratiquement toutes les agressions. Pendant des milliers d'années, il avait rempli sa mission jusqu'à cette maudite tempête. La neige gorgée d'eau et la foudre, une combinaison mortelle. Le vent s'engouffrait dans la brèche, charriant avec lui des flocons de neige et des grêlons qui tombaient dans le trou béant au niveau du sol. Sans cesser de surveiller le toit, Richard retira l'éclat de verre planté dans sa cuisse. Sortant un morceau d'acier et une brique à briquet de son sac, il s'en servit pour allumer la torche la plus proche. Redoutant que des gens aient été tués par la chute du plancher du jardin, il courut vers le trou béant dans lequel de la terre et du schiste continuaient à tomber. Callan le retint par la manche. « Richard, recule! Si le sol continue à s'écrouler, tu risques d'être entraîné dans sa chute !» Le sourcier brandit sa torche afin de sonder la cavité. Malmené par le vent et l'appel d'air, la flamme vacilla, mais elle résista. Se penchant, Richard constata que le sol du jardin de la vie était soutenu par une série d'arches qui constituaient le plafond d'une grande salle. « Je crois que nous ne risquons plus rien. » La foudre a fini d'affaiblir la partie du toit soumise à la pression de la neige, mais le reste tient solidement le coup. Quant au sol, lui aussi a cédé à l'endroit le plus faible. Regarde, la foudre a frappé la partie la plus fine de la voûte, entre deux arches presque indestructibles. « Tu es sûr de ce que tu dis ?»« Pratiquement, oui. » Richard s'allongea sur le ventre et orienta la torche vers le vide. « Ce n'est pas une salle du palais, comme je l'avais d'abord cru. » « Sur la gauche, je vois un escalier. » Callan se pencha un peu plus. « Un escalier? Il n'y a aucune sortie d'escalier ici. »« Exact. » »« Apparemment, un escalier servait jadis à rejoindre le jardin de la vie, mais il a été condamné. »« C'est absurde, » dit Callan. « Ce jardin a été construit pour être une sorte de coffre-fort magique. La présence d'un escalier n'a aucun sens. L'ouverture aurait affaibli le champ de force protecteur. » Et quand on bâtit une structure de ce type, on ne la scelle pas par le bas non plus. C'est tout à fait logique, mais pourtant les faits sont là. C'est idiot. Sauf si ce qui se trouve sous le jardin faisait originellement partie du coffre-fort. Richard avança de quelques pouces. La partie du sol encore intacte semblait solidement soutenue par les arches, comme il l'avait avancé. Cet escalier débouchait peut-être jadis dans le jardin, mais là, il se termine sur un palier. « Tu vois l'endroit où s'arrêtent les marches? Je voudrais descendre jusque-là. »«
Richard, le palier est beaucoup trop bas pour que tu puisses sauter. »
Richard se releva, brandit sa torche et regarda autour de lui. « Tu vois la pentille où les jardiniers rangent les outils? Ici, les arbres doivent être régulièrement élagués, sinon ils finiraient par atteindre le toit. Donc, il doit y avoir une échelle. » Lorsqu'il eut ouvert la porte de la pentille, Richard découvrit qu'il ne s'était pas trompé. Tendant la torche à Callan, il s'empara de l'échelle de bois. Bien qu'elle fût très lourde, il parvint à la déplacer seul. Quand il l'eut glissée dans le trou, il constata qu'elle avait la longueur voulue. Levant les yeux, il vit à travers la brèche du toit que le vent se calmait. Les nuages s'effilochaient un peu, laissant apercevoir quelques étoiles.
« Si tu attendais ici, » proposa-t-il en commençant à descendre l'échelle.
« Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche, seigneur Hall. »
Au moins attends que j'ai atteint le palier et vérifié la solidité des marches. » Callan n'eut pas le cœur de refuser. Restant au bord du trou, les pieds calés contre un bloc de pierre qui jaillissait du sol, elle suivit du regard la progression de son mari. Quand il leva les yeux vers sa femme, Richard eut l'impression que le trou était une gueule béante aux crocs acérés, les blocs de granit, qui venaient de l'avaler, le propulsant dans le gosier de quelque improbable monstre de pierre. Lorsqu'il posa le pied sur le palier, une sphère lumineuse trônant sur un support de fer émit une lueur verte presque irréelle. Ce n'était pas le premier artefact de ce genre que voyait le sourcier. Il y en avait dans plusieurs secteurs du palais du peuple et dans les sous-sols de la forteresse du sorcier, entre autres endroits,
À première vue de banals globes de verre, ces objets magiques réagissaient à la présence d'un détenteur du don, lui éclairant obligeamment le chemin. Lorsque Richard eut pris dans sa main la lourde sphère, sa lumière devint plus vive et moins surnaturelle.
« Au moins, nous n'aurons pas besoin de porter la torche ?»
dit Callan en arrivant à son tour sur le palier.
« En effet, » fit Richard alors qu'il sondait les ténèbres. « Tout ça n'a aucun sens.
Que veux-tu dire ?»
En avançant, le sourcier écarta un épais réseau de toiles d'araignée.
« Il devrait y avoir une salle sous le jardin ou une dépendance quelconque. Mais on dirait que personne n'a mis les pieds ici depuis un bon millier d'années, au minimum. »
Callan inspecta les murs couverts d'une épaisse couche de poussière.
« Au minimum, comme tu dis. »
En descendant les marches, Richard prit garde à éviter les débris qui les couvraient par endroits. Une main sur l'épaule de son mari, Callan le suivait en imitant ses judicieuses précautions. Au pied de la très longue série de marches, les deux époux débouchèrent sur une sorte de promenade qui faisait le tour d'une grande salle aux murs en blocs de granit. Des arches gigantesques se succédaient, créant la solide infrastructure qui soutenait le plancher du jardin de la vie. Le granit effrité et noirci semblait très ancien. De toute évidence, la lumière du jour n'avait plus pénétré en ces lieux depuis des lustres. Le centre de la salle n'était pas plat, mais en forme de dôme. Une configuration qui contraignit Richard et Callan à utiliser la promenade pour atteindre l'autre bout de la grande pièce. La majorité des débris étaient tombés sur le dôme, mais certains avaient glissé sur la promenade, rendant le terrain très périlleux. Richard se mit en chemin, escaladant des piles de gravats. Callan fit le tour du dôme dans l'autre sens, et elle aussi dut négocier bien des obstacles. Cette salle, qui n'en était pas une, n'avait aucune utilité apparente. À coup presque sûr, c'était une pièce de maintenance permettant d'inspecter la structure du palais. Il y avait des endroits semblables un peu partout dans le complexe. Certains donnaient accès aux fondations, d'autres aux parties cachées des colonnades, des poutres et de divers éléments architecturaux. Richard ne fut donc pas surpris outre mesure par ce qu'il découvrait.
Mais pourquoi avoir isolé cette zone du jardin de la vie?
L'escalier semblait avoir été condamné et en partie démonté. Le sol du jardin s'étant effondré, il serait impossible de déterminer si un accès existait jadis. Au fond, il s'agissait peut-être d'une zone ayant servi à la construction et qu'on avait ensuite scellée.
« Devant moi !»
cria soudain Callan.
« Je vois un escalier en colimaçon qui descend vers l'étage inférieur. »